Épître de Tite, chapitre 1er, verset 7. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. En même temps que l'apôtre Paul demande à Tite de faire cela, regardez ce qu'il lui dit au verset 16. C'est une question spirituelle, même en fait, il introduit les œuvres. Tite, chapitre 1er, verset 16. Il parle de certains chrétiens qui ne vont pas bien. Et il dit ceci, ils font profession de connaître Dieu, dont ils confessaient, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Je vous donne un exemple, il y a un couple de chrétiens qui est parti dans une ville pour une affaire. Ils ont rencontré une chrétienne. Et cette chrétienne, vous savez ce qu'elle leur a dit? Moi, ça m'a fait... C'est grave. Hein? J'ai fait un mensonge pour Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein? Jusqu'à quel point on peut être égaré. Ça s'adresse à ce verset s'adresse à ces gens, incapables d'aucune bonne œuvre. Plus loin, au chapitre 2, au verset 7, il exhorte les jeunes gens, il leur dit, mais te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Au verset 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Au chapitre 3, il recommence, il leur parle de soumission parce que tout se relie, cette soumission aux autorités. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre. Verset 8, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses. Vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Et au verset 14, il faut, donc ça c'est un impératif, ça c'est non négociable, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Vous savez que le rôle des pasteurs, c'est de veiller sur vos âmes. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est écrit? Il veille sur vos âmes, vous connaissez la suite, dont ils devront rendre compte. Ma responsabilité, encore une fois, c'est de m'appliquer à veiller sur vos âmes afin que vous fassiez ce qui est bon. On est heureux quand on fait ce qui est bon. Beaucoup de chrétiens sont malheureux parce qu'en vérité, ils ne connaissent même pas ce qui est bon. Là, on l'a lu que pratiquer de bonnes œuvres, c'était quelque chose de bon. Donc, ça ne peut que nous faire du bien. C'est un sujet archi-délicat dans lequel beaucoup d'églises se sont embarquées et ont fait souvent des œuvres mortes. Jusqu'à tel point que lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, mais qu'en même temps on veut faire des œuvres parce que ça déculpabilise de faire des œuvres. Je fais ça, un point c'est tout, voilà, je le fais. Mais c'est pas pour ça que c'est ce que Dieu vous demande. Donc, moi je n'ai pas à vous entraîner dans des œuvres. Nous devons individuellement et corporativement, bien sûr, entrer dans les œuvres que Dieu a préparées. C'est personnel et c'est collectif. C'est quelque chose qui devrait nous intéresser. Le peu que l'on vient de lire nous montre que c'est ce que Dieu attend. Vous savez, il y a quelques années, je vous l'avais raconté, il y a quelques années, j'avais été dans une église, alors des fois, quand entre pasteurs, on s'appelle, « Ah, tu viens chez voir ta fille ? Ah, ben t'as qu'à prêcher, alors !» Et j'avais fait quelque chose qui n'est pas bien. J'avais pris 3 ou 4 prédications. Vous savez, quand on part comme ça un week-end, je me suis dit, bon, t'es en vacances. J'avais pris 3 ou 4 prédications. Vous voyez, des prédications qu'on a préparées à l'avance, clac, clac. Et je me suis dit, tiens, tu prendras celle-là. Elle avait fait du bien à Saint-Agne. Elle fera du bien à telle église. Et je me suis dit, tu lèveras à 7h, comme ça, vous voyez, la grasse matinée. Et dans la nuit, j'entends une voix. Ils sont incapables d'aucune bonne œuvre. C'est le verset là qu'on a lu. Je me réveille, mais j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. Et je savais très bien. Donc, je savais ce qu'il me fallait faire. Les 3 prédications que j'avais prises, c'était pas bien. Je me suis levé à 3 heures, je me rappelle, et j'ai prié. Et j'ai prêché sur ce texte à cette église, d'une manière assez sévère d'ailleurs. Vous êtes incapable d'aucune bonne œuvre. Ils s'attendaient à un bon sermon, vous voyez qu'elle allait les rassurer. Et à la fin, ils étaient, je ne sais pas combien, en train de pleurer à m'attendre. Monsieur Go, c'était pour moi. J'ai honte. Je ne fais aucune œuvre. Je suis dans l'église depuis des années. Je ne fais rien. Et Dieu leur avait parlé. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas prendre cette introduction d'une manière brutale. Il faut la prendre d'une manière intelligente. Parce qu'il y a plusieurs façons de construire. Je le répète, il y a les œuvres mortes et il y a les œuvres vivantes. Il y a les œuvres charnelles et il y a les œuvres spirituelles. Paul en parle aux Corinthiens. Il dit aux Corinthiens, il y a deux façons de bâtir. On peut bâtir avec du foin, du chaume, de la paille. Vous connaissez ce texte. Et il y a ceux qui construisent avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Et que le jour où on passera devant Dieu, eh bien ce jour-là fera connaître exactement les matériaux avec lesquels on a travaillé. Vous connaissez ce texte dans Corinthiens 3. C'est très très clair. Il dit voilà, ce jour-là la fera connaître. Je ne sais pas comment ça se présentera. Tout ce qu'on aura fait, tout. Je dis bien tout. Le petit coup de fil que vous avez donné le lundi soir à Madame Dupont parce que vous ne l'avez pas vue depuis 15 jours à l'église. Madame Dupont, vous savez bien, vous l'avez oublié. Mais tout est enregistré, c'est écrit. Comment on l'aura fait? On l'aura fait pourquoi? Parce que là, on aime la sœur. On l'aura fait parce qu'on nous a dit de le faire. Tout ce que l'on fait, c'est ou du foin, de la paille, du chaume, des matériaux qui brûlent, ou c'est de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Et tout ce qu'on a fait, mais on ne s'imagine pas. Je ne pense pas qu'on s'imagine. Tout ce qu'on a fait, ça passera devant Dieu le jour où on comparaîtra devant lui. Et ça ne tient pas à grand-chose. Ça ne tient pas à grand-chose. Mais quand même, moi je vais rendre compte aussi pour cette prédication. Vous voyez, là aussi, moi c'est pareil. Ce que je le fais pour Dieu. Même si c'est mon travail de pasteur, ce n'est pas un travail pour moi, c'est un ministère. C'est exactement pareil. Ma prédication ce matin, ou c'est du foin, ou c'est de l'or. C'est pareil. Donc on est là devant Dieu, sous le regard du Seigneur, on a chanté des chants profonds, on a loué, on va prendre la Sainte-Seine, on va apporter nos offrandes, on va participer à l'Assemblée Générale de la CAFEJ pour ceux qui en sont membres. Et justement, là aussi, ça fait partie des œuvres de l'Église. Combien c'est important, vous avez vu il y a 15 jours, quand le pasteur, le maire, a présenté son ministère, il en a été ému parce qu'il a remercié les chrétiens de France qui ont donné pour que la Polynésie soit évangélisée. Et moi, je l'ai vu pleurer plusieurs fois en disant merci. Merci que des hommes ont été envoyés, mais les hommes qui ont été envoyés ont obéi, mais en même temps, les chrétiens ont pourvu à ses besoins. Ça fait partie des œuvres, monsieur et madame Catéco, l'autre jour, nous le disaient. C'est bien vous qui le disiez? C'est ça. Si monsieur et madame Catéco sont là, c'est pas parce qu'ils préfèrent Toulouse à la Nouvelle-Calédonie. C'est parce que Dieu les a sauvés par des missionnaires français et que maintenant Dieu renvoie des missionnaires, parce qu'ils vont me servir le Seigneur, pour évangéliser la France. Vous ne croyez pas que Dieu est bon? Vous croyez qu'ils sont là pour passer la retraite tranquillement? Ils sont là parce qu'ils veulent servir le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je me rappelle quand je me suis converti, M. Bertalon me disait souvent, « Mais tu vois Gérard, on évangélise l'Afrique, et dans 30 ans, et c'est ce qui se passe, c'est les Africains qui viendront évangéliser la France. » Et c'est vrai qu'il y a plein de pasteurs africains qui prêchent dans nos églises. Il y a des œuvres. Le plan de Dieu, voilà, j'ai préparé des œuvres à l'avance. Il nous a sauvés pour cela. Il nous a sauvés pour l'éternité, tout ça, bon ça on le sait. Mais sur la terre, le temps que Dieu nous laisse, pourquoi Dieu n'a pas repris Madame Bordeneuve il y a 17 ans? Pourquoi Dieu ne l'a pas repris? Il n'était pas de droit de vous reprendre? Pourquoi Dieu? Parce que Dieu avait encore besoin d'elle, et son mari aussi un peu peut-être. Mais mes frères et sœurs, il y a des œuvres. Je voudrais que nous comprenions bien qu'il y a des œuvres. Elles sont préparées, elles sont toutes prêtes. Et nous devons y entrer pas n'importe comment. C'est là que le bât blesse. Parce qu'on on se doit d'avancer dans des projets que Dieu a préparés. Je le répète, c'est individuel et c'est corporatif. Mais sérieusement, est-ce que ça vous préoccupe? Vous avez vu Paul, il est préoccupé, tu vas dans cette île à Crète, je crois qu'il y avait 7 églises, monsieur Olé le confirmerait, il y a 7 églises, je crois qu'il y avait 7 églises à Crète, qui n'avaient pas de pasteur. Et Paul leur dit, il te faut aller établir des anciens dans chaque église. Ça c'est une affaire qui va se présenter, qui correspond à des œuvres. À des œuvres, des frères dans l'église, des épouses qui vont devenir ces anciens, qui vont devenir de véritables hommes et de véritables femmes de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu aime les âmes et il veut que les âmes dans les églises soient nourries. Et je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais j'espère que vous êtes en adéquation avec ce que je suis en train de vous dire. Et que tous, si vous aimez Jésus, si vous avez pris le baptême, si vous avez accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur, vous dites, mais Seigneur, montre-moi. Montre-moi déjà avec quoi je construis. J'ai pas envie quand je vais passer devant... Non, mais vous vous rendez compte quand on va passer devant Dieu? Vous vous rendez compte si quand je vais passer devant Dieu, le Seigneur me dit, tu vois toutes les prédications? Il n'y en a aucune qui a tenu le coup. C'était que du foin, la paille. Ça serait terrible. Ça serait affreux pour moi. Et chacun d'entre nous nous demande, mais comment je travaille? C'est écrit. Prenons garde à la façon dont... C'est écrit. Vous lirez dans 1 Corinthiens 3. C'est écrit. Il y avait un comportement charnel de la part des Corinthiens qui commençaient à comparer les ministères. Mais moi, je préfère Paul et moi, je préfère Apollos. Et puis, ceux qui étaient super spirituels, moi, je préfère Jésus. Et tout ça, ça a mis la pagaille, de la jalousie, sont devenus charnels. Et dit, mais faites attention à la manière dont vous travaillez, à la manière dont vous construisez. Alors, quel est le moyen véritable de construire avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses? En vérité, c'est ça qui nous préoccupe. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que Dieu, moi je le crois vraiment avec les années qui passent, je pense que Dieu, par exemple, peut demander à un chrétien de faire le ménage. C'est ce que Dieu lui demande. C'est tout. Mais oui, c'est tout. Dieu peut donner à un autre de faire le ménage, par exemple, de faire des visites. Vous connaissez l'histoire des talents. Dieu a donné l'un à l'un 5, à l'un 2, à l'un 1. Et celui qui n'avait pas reçu beaucoup, justement, il a eu l'idiotie de l'enterrer. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce qui prouve, en fin de compte, qu'il n'y a pas que de la paresse et de la négligence, il y a surtout une réalité affreuse, c'est qu'il représente les gens qui n'ont plus de communion avec Dieu. Parce qu'il y a une grande différence entre enterrer un talent, volontairement, je ne fais plus rien, non. Et puis ceux qui, dans des moments d'épreuve, dans des moments de difficulté, peuvent perdre le talent, je pense à cet homme, vous savez, qui avait perdu le fer de sa hache, vous savez, mais qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de servir Dieu. Il représente les chrétiens qui ont perdu leur don, leur talent, leur ministère. Mais qui ont besoin de faire appel. Et cet homme, il va le faire. Il va faire appel. Il va dire, il va appeler le prophète. Il va dire, voilà, le fer, il était emprunté. Il n'a pas veillé. Il y a un truc qui ne s'est pas passé. Parce que j'en avais déjà parlé. Moi, j'ai souvent utilisé des haches. Et je peux vous dire que quand une hache commence à se démancher, on le sent. On le sent bien avant. Il n'a pas veillé. Il y a des gens, ils ne veillent pas. Ils ne font pas attention. Ils ne sont pas sérieux. On le sait quand un fer va se démancher. Je peux vous le dire. Il a tombé, l'erreur peut arriver, le péché, ça peut arriver, mais il fait de suite appel. Et vous savez ce que le prophète fait? Mais c'est extraordinaire. Là, c'est la première solution. Il y en a deux, en vérité. La première, elle est là. C'est que le prophète, il jette un bois. Il lui dit, mais où il est tombé? Il faut être honnête. Où c'est que je me suis trompé? Où c'est que je me suis arrêté? Où c'est que je suis devenu négligent? Où c'est que je suis devenu loin de Dieu? Où est-il tombé? Là. Et le prophète, il prend un morceau de bois et il le jette. Qu'est-ce qui se passe? Le miracle. On ne récupère pas un talent, un don, une faveur par des méthodes humaines. On récupère toujours par la croix. Mes frères et sœurs, écoutez bien. Cette prédication, elle n'est pas pour remettre les gens au boulot. Cette prédication, elle est pour que les chrétiens reviennent au calvaire. C'est le bois. D'ailleurs, quand Paul parle aux Galates de la croix, il parle du bois de la croix. Le bois nous parle toujours de la croix qui fait remonter le don. Et si nous voulons vraiment que ça se passe bien quand on va passer devant Dieu, Seigneur, je reviens au calvaire, je reviens à la croix, je reviens à ton sang précieux, je reviens et tu m'ouvres les yeux sur cette admirable expérience qui s'est passée à la croix, à Golgotha. Nous ne retrouvons pas des talents par la méthode et en mettant les gens, tu fais ci, qu'est-ce que tu fais, Timothée, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je fais ci, eh bien, fais ça. Ah, tu chantes bien, Nicolas. Non, pas, surtout pas toi, ça va, tu chantes pas bien. Mais, mais il chante de mieux en mieux quand même. Est-ce que c'est grave qu'il chante pas bien? Hein? Franchement, c'est pas grave. Il y a d'autres qualités, c'est pas grave. Ça serait mon fils, je ferais pareil. Mes frères et sœurs, ce n'est pas à moins que votre timidité vous étouffe et que Dieu utilise quelqu'un pour vous encourager. Parce que ça, quand même, ça se présente, souvent. Que Dieu utilise des frères, des sœurs pour dire quand même, moi je te verrai bien faire ci ou faire ça. Le Seigneur peut utiliser des gens, ne soyons pas catégoriques. Mais il faut faire les choses par conviction. Il faut faire les choses de bon cœur. Et pour moi, il n'y a qu'une solution. Celle de venir au calvaire, de revenir à la croix, dans la repentance, de dire oui, j'ai pas veillé. C'est vrai qu'Élisée aurait pu lui dire, tu sais quand même, tu sentais bien quand même que la hache allait. Oui, mais je pensais pas. Vous savez, on a vite fait. Ne cherchons pas des excuses. Repentons-nous devant Dieu. Et puis, apprenons de Dieu ce qu'il faut faire. Alors, on va le lire. Je l'ai déjà dit, mais ça fait rien. Certains ont besoin d'entendre. Bon, ça, c'était ma petite introduction. Mais j'aimerais que vous écoutiez vraiment la suite. Parce que c'est là que se joue. À la croix, c'est évident. J'espère qu'il n'y a personne qui doute un instant de ce que je viens de dire. C'est au calvaire qu'on retrouve le talent, le don. Et si vraiment ça ne va pas, ce n'est pas une exhortation qui va y arriver. C'est la croix, croyez-moi. L'exhortation, elle peut être formidable, elle peut être spirituelle. Non, c'est la croix, le bois de la croix qui fera remonter de manière surnaturelle. Parce que nous sommes dans un royaume surnaturel. Bien sûr qu'on est là, on voit les choses physiquement. Vous me voyez physiquement, on est dans un local matériel. On respire, on bouge, on mange, etc. Mais n'oubliez pas que le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est lié au surnaturel. C'est pour ça que Dieu a donné cet exemple. Regardez cette histoire, on la connaît, on l'a utilisée maintes et maintes fois. Mais je peux vous dire que ce matin, quelqu'un pourrait être délivré par cette affaire. Luc chapitre 10, verset 38. On utilise ça souvent pour l'évangélisation, mais je peux vous dire qu'il y a un secret extraordinaire dans cette affaire. Luc chapitre 10, verset 38. Et s'il le faut, toute la semaine, demandez au Seigneur qu'il vous parle de la croix et de ce qu'il attend de vous par rapport à ce chapitre, à ces quelques versets. Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. C'était bien, non? Est-ce que c'est bien? Ben oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Recevoir le Seigneur Jésus dans sa maison. C'est quand même... C'était quelque chose. Vraiment. C'est résumé tout. Hein. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Donc n'oubliez pas, Jésus était avec les disciples. Donc ça veut dire qu'il était certainement, ils étaient 13 au moins. D'accord, à manger. Marthe, occupée à diversion indomestique, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Paf, deux reproches d'un coup. Un à Jésus, un à la frangine. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Voilà, là on est dans l'or et l'argent et les pierres précieuses. C'est une histoire, vous avez vu quelques versets, mais il y a là une clé. Une clé pour que l'on comprenne ce que je vous ai dit avant et pour que les œuvres deviennent une bénédiction. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, quand Jésus dit aux apôtres qui n'ont pas compris, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Vous vous rendez compte? La grâce dans laquelle il présente, il dit ma nourriture, ma satisfaction, comment on pourrait dire? Oui, mon rassasiement. c'est de faire la volonté de Dieu. Franchement, est-ce qu'il y a au milieu de nous des frères et des sœurs qui voudraient dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, ça peut prendre un peu plus de temps, soyons quand même, soyons patients, qui pourraient dire ma nourriture, c'est de faire la volonté du Seigneur Jésus. Il y en a qui voudraient pouvoir le dire. Ça, c'est l'or et les pierres précieuses. Les pierres précieuses, regardez sur Internet, vous allez voir comment elles sont fabriquées. Enfin, comment elles sont fabriquées naturellement, la chaleur qu'il faut. Ça parle quand même de, voilà, d'une certaine pression. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine? Et là, nous avons une histoire extraordinaire. Marthe, Jésus arrive, qu'est-ce que vous feriez, vous? Un serviteur de Dieu arrive avec 12 frères, pour peu qu'ils soient avec leur femme. On vient manger. Quand? Eh bien, dans une heure, on mange. J'imagine, moi, certaines sœurs, combien vous êtes? On est 22. On a marché pendant 3 heures, on n'a pas déjeuné ce matin, en fait. Non, mais je le dis sous cette forme, mais c'est fort probable. Et Marthe, bien sûr, elle fait quelque chose qui est extraordinaire. Elle fait, je pense qu'elle est dans la volonté de Dieu également. Jésus va, elle est dans la volonté de Dieu. Elle le reçoit dans sa maison. C'est quelque chose qui devrait nous encourager à recevoir. Elle le reçoit, mais elle a un petit problème de se comparer à sa sœur. Elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer, parce que c'est ce qui se passe souvent dans nos vies. Un frère vit une expérience, moi j'en vis une autre. Est-ce qu'on est tous au même niveau? Est-ce qu'on est tous au même endroit? Non, ne jugez pas quelqu'un qui est peut-être dans le recueillement et vous dites, mais il fait rien. Et mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Peut-être que la personne, elle est en train de recevoir et qu'elle a besoin d'un certain temps pour recevoir. Et quand on est dans le jugement, eh bien, on va se faire du mal, on va se déconnecter de la grâce de Dieu. Et justement, que chacun, comment il est dit dans la parole, que chacun prenne garde à la façon dont il bâtit. Et là, nous avons cette histoire. Bon, Marthe, elle est dans la volonté de Dieu, mais tout en étant dans la volonté de Dieu, elle est coincée parce que sa sœur ne l'aide pas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'a pas aidée, parce qu'après cette affaire, je suis sûr, ce n'est pas possible qu'elle ne l'ait pas aidée. Sinon, Jésus le lui aurait dit aussi. Donc, cette femme reçoit Jésus, mais Marie, elle a besoin de recevoir. Alors, je vous pose cette question. Je ne sais pas, ne me dites pas, oui, vite fait. Est-ce que vraiment, je ne parle pas de bénédiction, hein, parce que si je vous pose, est-ce que vous voulez être béni? Si je vous pose, est-ce que vous voulez avoir plus de paix? Je pense connaître la réponse. Est-ce que nous voulons recevoir la pensée de Jésus? C'est une question sérieuse, parce que Dieu y voit. Dieu y regarde au cœur, vous le savez. Dieu regarde au cœur. Il n'y a que lui qui est capable de le faire. Moi, je ne suis pas capable. Mais en ce moment même, alors que nous sommes devant sa face, sous son regard, Dieu a vu comment vous répondiez à la question. Il a déjà vu. Alors je repose quand même la question pour aider ceux qui sont lents. La Bible parle, vous êtes lents. Certains sont lents. Est-ce que nous avons envie de recevoir la pensée du Seigneur? Parce que vous voyez, c'est très facile de dire, il faut que les nôtres s'appliquent à Patrick et de Bonnesdale. Il faut, et c'est vrai que par exemple, rien qu'au niveau de l'Assemblée, moi j'ai à cœur, vous voyez, par exemple, on a fait le point avec le pasteur de Polynésie, qui nous réclame encore de l'aide, il aimerait qu'on puisse l'aider. Moi je pense qu'on peut l'aider. Il m'a dit, mais aidez-nous, pour la formation des pasteurs. Monsieur et Madame Bordeneuve sont certainement très heureux de voir qu'on continue à les aider, oui ou non? Et nous on ne réalise pas ce qui se passe là-bas. Ça serait peut-être bien qu'ils disent un mot. Et mes frères et sœurs, moi je suis sûr que beaucoup de chrétiens, le problème, comme je l'ai déjà dit, et ça c'est le drame, mais c'est un drame, c'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Et comme Paul le dit, ils connaissent Christ selon la chair. Alors là c'est un truc qui abîme les églises, vraiment qui abîme les églises. Et le royaume de Dieu et qui scandalise les pécheurs. Mais bon, Nous avançons et nous nous disons, mais quelles sont ces bonnes œuvres auxquelles tu m'appelles? Quelles sont les bonnes œuvres auxquelles tu appelles l'Église? Parce que Dieu a des œuvres. Croyez-moi. Peut-être que vous y pensez même pas, tellement vous êtes peut-être préoccupé par les choses de la terre, les plaisirs de la vie, etc., comme Jésus dit. Mais il y a là cette histoire qui doit nous aider. Vraiment nous aider. Qu'est-ce qu'elle fait, Marie ? Marie, elle est assise au pied du Seigneur. Il y a pourtant il y a un besoin, mais des besoins, je vais vous dire, des besoins, il y en a des milliers de besoins. Des urgences, il y en a aussi. Mais il y a une urgence avec un U majuscule. Parce qu'il faut faire la différence entre les besoins, les milliers de besoins. Vous voyez, on peut dire, il faut faire du social, il y a plein de clochards, il faut leur donner à manger. Demain, on en prend tout, on fait tous 4 ou 5 sandwichs, on fait une avenue de Toulouse, on leur donne un sandwich à chacun. Est-ce que... Voilà, tiens, c'est bien ce truc. Allez, on fait du sandwich au clochard. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faut commencer comme ça. Il faut se tenir assis au pied du Seigneur. Et je pense que si Dieu m'a remis à cœur cette prédication que j'ai faite d'une manière différente, bien sûr, il y a quelques mois, c'est que plusieurs parmi nous n'ont pas pris au sérieux cette exhortation. N'ont pas pris au sérieux. Pour beaucoup de personnes, c'est... Mais non, je fais ce que j'ai à faire. Je fais déjà. Vous êtes sûr que Dieu ne peut pas vous demander quelque chose de différent ? Est-ce que Dieu peut demander à quelqu'un pendant, par exemple, je parlais du ménage, est-ce que Dieu peut demander à un frère, une femme de faire du ménage, et qu'au bout de, je sais pas moi, de bout d'un certain temps, Dieu demande autre chose. Est-ce que c'est possible ? Eh bien oui. Mais il y a des gens, ils vont se... Ah mais moi je vous dis, je le sais, c'est biblique. Donc quand je dis je le sais, c'est pas par révélation. C'est par révélation biblique. Il y a des gens, ils vont se présenter devant Dieu, ça va être catastrophique. Dieu les aura appelés au ministère, ils l'auront jamais capté. Il y a des gens qui seront rentrés dans le ministère que Dieu leur avait jamais rien demandé. Et il y aura tous les cas de figure. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on n'aura pas pris le temps de s'asseoir. Le fait d'être assis spirituellement, c'est très 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 important. Assis, d'ailleurs quand Paul parle aux Éphésiens, vous voyez, le dernier chapitre, c'est un chapitre sur le bon combat. Armez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans les jours mauvais et revêtez la vérité, etc. La cuirasse, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. On voit le chapitre 6, c'est un combat, un bon combat. Mais comment l'épître aux Éphésiens ? Vous êtes assis dans les lieux célestes. Et ne nous imaginons pas qu'on va combattre un bon combat si au préalable, on ne s'est pas approprié de la paix. Être assis. Marie, elle est assise. Elle est à sa place. Marthe est à sa place. Mais ne jouez jamais le jeu de la comparaison. Parce que des fois, on juge le comportement des gens. Et on n'a pas jugé le comportement. La seule chose qu'il faut juger, c'est que les anciens dans une église, qui ont une expérience un petit peu plus développée à cause de leurs années de conversion, sont capables de juger le péché. Ça, s'il y a du péché, il faut le juger. C'est pour ça qu'il est dit, jugez selon la justice. Mais ne vous comparez pas. Ne faites pas cette erreur énorme que le diable va utiliser pour que vous perdiez la communion avec Dieu. Ne vous comparez pas à quelqu'un, ne vous comparez jamais à quelqu'un. Quand Pierre se compare à Jean, il lui dit « Que t'importe les autres, toi, suis-moi. » C'est un drame ça, qu'on a besoin toujours de se comparer à quelqu'un d'autre pour peu qu'il fasse à peu près la même chose que nous. Ne vous comparez jamais à quelqu'un. Marie, elle est assise. Être assis, ça nous parle vraiment du repos. Jésus, on en parle du repos. Les pêcheurs, la première chose qu'on leur dit, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La première chose que le Seigneur donne, c'est le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux et mon fardeau léger, et vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est une invitation qui parcourt les siècles. Et le problème, c'est qu'il y a des chrétiens, ils ont 20 ans, 30 ans de conversion, il faut leur rappeler... Ce béaba, ce lait. Alors bon, le Seigneur le fait, il est patient, tout ça. Bon, ce qui est important, c'est d'être sauvé. Mais c'est avouer quand même, sans jeter la pierre, que c'est quand même dommage qu'un chrétien qui ait 20 ans de conversion, il faut lui rappeler tous les 3 jours, viens à Jésus et tu trouveras le repos. Ça devrait être quelque chose d'acquis. Le repos, je sais comment l'obtenir. Je viens à Jésus. Il me donne le repos. Chrétiens qui ont peur, ils ont peur du lendemain, mais qu'est-ce qui va arriver? Et comment ça va se passer? Et qui c'est qui va être élu? Qui c'est qui va être président de la République? J'ai peur, n'ayez pas peur. Ayez vos regards sur le Seigneur. Il tient tout dans sa main, et surtout votre vie si vous la lui avez donnée. Elle est assise. Quand on est assis, on peut écouter. Elle est à l'écoute. Quand on est assis, on est tranquille. Là, vous êtes assis. Moi, je suis debout. C'est toujours pareil. Moi, je fais des efforts pour ne pas me tomber. Vous, vous ne faites pas d'efforts, oui ou non? Vous êtes dans le repos physiquement. Physiquement. C'est bien d'être assis? Eh oui, c'est bien. Est-ce que spirituellement, c'est bien d'être assis dans la présence du Seigneur? Mais le Seigneur, on ne lui donne pas le temps de nous parler. Vous savez ce que l'Ecclésiaste dit? Mais quand tu rentres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le sacrifice des insensés, ils ne savent pas qu'ils font mal. C'est quoi le sacrifice des insensés? Est-ce que quelqu'un pourrait me le dire? Le sacrifice des insensés, c'est que je fais des choses pour Dieu, mais je n'obéis pas. Est-ce que vous comprenez? Je peux faire quelque chose, n'importe quoi, mais ce n'est pas pour ça que j'obéis. Je peux prêcher, ce n'est pas pour ça que j'obéis. C'est facile à comprendre. Vous êtes d'accord avec moi? Le sacrifice, c'est pour ça que Dieu dit, mais quand tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Vous comprenez pourquoi moi je souhaite que l'on puisse avoir du temps de recueillement, du temps de silence devant Dieu, avant que les cultes commencent, etc. Pourquoi? Parce que c'est tout à notre avantage d'avoir du temps de recueillement. Et des gens, c'est dès qu'ils se lèvent, paf, la musique, paf, même des gens chrétiens. Moi je vous dis, c'est une erreur. Approche-toi pour écouter. Marie, elle aurait pu dire à sa sœur, écoute, mais je vais t'aider. Non, elle avait besoin. Elle avait besoin. Elle n'était pas en train de chercher une occasion de buller. Elle avait besoin. Et c'est peut-être la question clé de notre culte. Est-ce que tu en as besoin? Je ne parle pas de bénédiction. On en a besoin de bénédiction. Et le Seigneur, il nous l'accorde. Ne vous inquiétez pas. Même si vous n'êtes pas d'accord avec la prédication, vous êtes son enfant. Il vous bénira quand même. Il n'y a pas de chantage dans le royaume. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous avez besoin? Vraiment besoin de connaître sa pensée. Est-ce que vous en avez besoin? Ou est-ce que je dis rien, moi, qu'est-ce que tu nous racontes? Il y a des gens, vous savez, moi je vois à la fin des cultes des fois, les réactions des gens qui sont bouleversés. Je reçois des messages des gens qui sont délivrés, libérés, guéris. Et il y a des gens qui sortent, ouais, monsieur Beau, il faudrait que vous appreniez à régler la climatisation de l'église. Vous voyez, on l'entend ça. Il y a un problème, c'est que les gens, leur cœur est fermé. Alors moi, je ne veux pas juger. Mais mes frères et sœurs, je nous pose la question. Mais répondez-lui, parce que vous savez que le Seigneur, il étend ses regards sur toute la terre. Et d'un seul coup d'œil, il connaît ce qui se passe dans le cœur de 7 milliards 300 millions de personnes. Bon, mais ça nous dépasse un peu. Vous êtes d'accord? Moi, je sais que quand mes trois enfants, ils étaient petits, ils me parlaient en même temps. J'avais du mal. Mais je sais que Dieu, lui, 7 milliards 300 millions de personnes peuvent lui parler, et des milliards d'anges dans le ciel peuvent le louer, il entend tout. Bon, c'est un peu quand même compliqué. Mais c'est vrai. Alors est-ce que quelqu'un, surtout que Dieu va vous voir, et il va vous programmer un rendez-vous. Et c'est quelqu'un qui dit, oui, je veux m'asseoir tranquillement, parce que le fait d'être assis parle de tranquillité, et surtout parle d'écoute. Je ne pense pas que Jésus et Marie étaient en train de partager les derniers potins de Jérusalem Post. Je pense que Jésus et Marie, la sœur de Marthe, étaient en train de s'entretenir des choses sur le royaume de Dieu. C'est pour ça que quand Marthe va s'autoriser, parce qu'elle croyait qu'elle avait raison, comme c'est le cas chaque fois qu'on n'est pas content, si elle a fait un reproche à Jésus, elle a fait quand même un reproche à Jésus, c'était quelqu'un de bien, Marthe, hein? S'il y a une maison sur laquelle Jésus s'est plu sur la terre, c'est là, à Béthanie, c'est sûr. Parce que dans certaines maisons, il n'a pas été bien reçu. Mais dans cette maison-là, il s'y plaisait. Il y allait d'ailleurs, il allait dormir et tout. C'était des amis. Mais Marthe s'est cru autorisée à lui faire un reproche. Ça ne te fait rien? Mais ça ne te fait rien que ma soeur me laisse toute seule pour servir? Et dis-lui donc de m'aider. Paf, deux reproches d'un coup. Et Jésus va lui parler avec tendresse, comme il n'y a que lui qui sait le faire. Marthe, Marthe. Quand Dieu appelle deux fois la personne par son prénom, vous remarquerez dans la Bible que c'est toujours intéressant. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est vrai que c'est beaucoup de servir Dieu et de faire ce qu'on fait de tout son cœur, de le faire, je ne sais pas, moi, ce que vous faites dans l'église, c'est beaucoup de choses. Quand on réunit nos petits deniers, pour l'autre jour, on a réuni les petits deniers, chacun a donné 5 euros, 10 euros, 20 euros, etc. Clac, on a envoyé 1000 euros pour les lits au Niger. C'est bien ? Vous voyez, voilà, c'est beaucoup de choses. Le Seigneur nous dira, c'est bien. Et le Seigneur pourrait nous dire, mais c'est bien, les frères et sœurs de Sainte-Agne, vous appliquez, vous donnez beaucoup de choses. Continuez. Il faut que les nôtres s'appliquent. Si vous êtes nouveau baptisé, vous devez vous appliquer à rentrer dans ce service. Il le faut. Si vous ne le faites pas, je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est que vous n'avez pas de communion avec Dieu. Si vous ne faites rien pour Dieu, non seulement vous êtes des paresseux, vous êtes des feignants, mais pas parce que vous êtes paresseux et feignants, parce que vous n'avez pas de communion avec Dieu. Ça, c'est un truc qu'il faut régler. Mais après, on est dans un processus, et le processus, c'est pas « faites ceci, faites cela, tu sais bien jouer la musique, sois musicien ». Il y a de fortes probabilités que ça se recoupe, tout ça. Mais c'est pas parce que vous êtes un bon animateur que vous allez devenir un pasteur. Des fois, on cherche des animateurs. Tu sais, ce jeune-là, il chante bien. Donc, tu sais que c'est pas pour toi que je parle. Tu sais, ce jeune, il chante bien, il joue bien de la guitare, il s'exprime bien. T'as vu, quand il parle, il fait pas de boulettes, il parle bien. Voilà, quand même, il est, comment on appelle ça, il est plein de vie. Oui, il ferait un bon pasteur. Mais n'importe quoi, c'est pas parce que quelqu'un parle bien et qu'il sait jouer de la guitare que ça serait un bon pasteur. Et on canalise les gens, et après, il y a des drames. Par contre, Marie, elle ne pouvait pas se tromper. La preuve, c'est qu'au chapitre 26 de Matthieu, au chapitre 26 de Matthieu, il y a quelque chose que vous connaissez. Vous le savez, c'est Matthieu 26. Oui, Matthieu 26. Au chapitre Matthieu de 26, Jésus dans une autre maison. Certainement la maison, oui, c'est la maison de Simon le lépreux. Alors il ne devait pas être lépreux, il ne l'était plus, donc c'était quelqu'un qui avait été guéri. Puisqu'il est dit, Matthieu 26, verset 6, comme Jésus était à Béthanie, donc c'était une maison pas loin de certainement de chez Marthe, dans la maison de Simon le lépreux, Jésus était recherché comme un criminel, et ce brave Simon qui avait été guéri, peut-être c'est le gars de Matthieu 8, on ne sait pas, c'est pas grave, il a dit que Jésus a guéri souvent des lépreux, il l'a accueilli dans sa maison. C'était bien ? Oui, c'était bien, ah oui. Regardez bien. Donc cette femme, elle n'était pas chez elle, bon, elle était dans son village. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum le prix d'une année de salaire et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ?» Vous voyez comment on a vite fait de faire de la peine aux gens. Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Elle savait très bien ce qu'elle faisait, Marie. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, donc aujourd'hui encore, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et on peut tous dire qu'il y a des parfums qui durent longtemps. Mes frères et sœurs, elle l'a fait pour ma sépulture. Vous savez de quoi Jésus et Marie étaient en train de s'entretenir lorsqu'elle était assise à ses pieds de cette affaire. Mais elle l'a cru, elle. Parce que jamais personne ne l'a cru. À tel point que même quand Jésus est ressuscité, personne ne l'a cru. Personne ne l'a cru. Il n'y a qu'une personne sur la terre qui a cru à la mort de Jésus-Christ et à sa résurrection. C'est Marie. Pourquoi ? Parce qu'elle s'était assise à ses pieds. Vous entendez, frères et sœurs ? Elle l'a fait pour ma sépulture. Ça valait la peine qu'elle répande cette fiole pleine de parfums qui représentait une année de salaire ? C'était du gaspillage. Quand on voit la réaction, là, c'est les disciples. Dans une autre version, c'est Judas. Judas, il est un peu plus épicé encore. Ça vous prouve qu'en fonction de notre maturité, eh bien, on réagit plus ou moins bien. Mais une chose est sûre, mes frères et sœurs, elle l'a fait pour ma sépulture. Elle était là, elle le savait que quelques jours après, le Seigneur Jésus allait être crucifié. Elle le savait. Ils en avaient parlé, bien sûr qu'ils avaient été mangés, mais elle avait reçu sa pensée. Vous n'avez pas envie, mais je ne sais pas. Mes frères et sœurs, quand je vois la décadence de certains chrétiens, des chrétiens qui sont mais vraiment charnels, j'en entends parfois qui sont vulgaires, qui blaguent avec des bagues au niveau de la ceinture. Vous croyez que c'est comme ça qu'on va avoir la pensée du Seigneur? Vous croyez que c'est comme ça que nos enfants seront sauvés, avec des blagues débiles? Nos enfants seront sauvés avec des chrétiens qui ont la pensée du Seigneur. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ça, c'était de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est pas la peine de calculer autrement. Quand Jésus dit aux chrétiens de l'Odyssée qui vont pas bien du tout, je te conseille d'acheter de moi, c'est toujours de Jésus, c'est la croix, c'est la présence du Seigneur, c'est le calvaire, c'est la parole, c'est la communion avec le Saint-Esprit, etc. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Les diamants, regardez sur Internet, comment sont constitués les diamants. Voilà, je ne sais pas la température qu'il faut pour qu'un diamant se forme. Ça fait peur, hein? Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de dire, Seigneur, j'accepte certaines épreuves dans tous les domaines, dans mon foyer, avec mes enfants ados qui sont pénibles. Vous savez ce que c'est des ados? Vous allez voir. J'accepte. J'accepte au travail des injustices. Est-ce que vous l'acceptez, ça? Ah, ça risque pas, moi. Hein. Moi, j'aime la vérité, on n'a pas intérêt à me faire un coup comme ça. Hein. Moi, je vais aller voir les prud'hommes, mais ça va chauffer. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, Dieu peut permettre des situations où vous aurez entièrement raison, où vous allez être accusé. C'est comme ça que les diamants se forment. Vous demanderez à un certain crucifié, qu'est-ce que la première parole qu'il a donnée sur le bois de la croix? Vous rappelez la première parole qu'il a... Heureusement qu'il a fait ça. Parce que nous, on est habitués à son amour, à sa grâce, à sa bonté, etc. Mais vous savez, Jésus sur la croix aurait pu dire, bon, maintenant ça suffit. Ça suffit. Gabriel. Vous savez l'ange Gabriel? Gabriel agit. En une seconde, Jérusalem était rayée de la carte. Oui ou non? Et qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Père, pardonne-leur. Et si on vous a blessé, je ne parle pas de crucifixion, si on vous a un petit peu blessé, pardonnez. Si on vous a vexé, je ne sais pas, toutes les contrariétés, on a toutes à peu près les mêmes. Acceptez-les. Acceptez les épreuves. Acceptez-les. Et votre or se purifiera afin que tu deviennes riche. Marie, c'est certainement, on peut le dire, hein, je le dis moi en toute honnêteté, en toute objectivité, en toute analyse. Marie, pour moi, c'est la femme de tous les hommes et femmes qui ont existé jusqu'à cette époque-là, la plus riche. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu la pensée du Seigneur. Alléluia. Elle est à l'écoute. Mes frères et sœurs, il faut faire des œuvres. Il faut faire des œuvres. Je le répète, si vous ne faites pas d'œuvres, ça va aller mal pour vous. Moi, je vous le dis, je rendrai compte. Je rendrai compte de cette prédication. Je le sais, le Seigneur me l'a montré. C'était au début que je suis arrivé ici. J'avais eu un entretien avec Monsieur de Dieu, Norbert, justement. Et Monsieur Christian. Je vous le dis, tiens, parce que c'était... Vous voyez comment les anciens... Je me rappelle, j'ai une discussion, je vous le dis. Merci, monsieur de Dieu. Écoutez bien, un des premiers entretiens que j'ai eu avec les anciens. Monsieur Gou, le problème avec les pasteurs. Quand j'y repense, le problème avec les pasteurs, c'est qu'à la place de faire des disciples, vous faites des rétrogrades. Vous rappelez? Vous voyez, j'aurais pu dire, non mais... J'aurais pu dire, non mais de quoi je me mêle? Et je dis, Seigneur, si ça vient de toi, confirme-le. Et c'est vrai que si on n'enseigne pas la vérité, les gens se donnent à Jésus et à la place d'en faire des disciples, on en fait des rétrogrades. Vous voyez, ça, c'est des conversations d'anciens. Vous comprenez ma pensée? Mais moi, ça m'a béni. Ça m'a béni. Après, je le redis, vous aurez pu me le dire aussi en autre ton, quand même. Parce que des fois, il se trompe aussi, dans la façon de le dire. Je le redis, c'est pas bien comme vous l'avez dit. Et M. Chrétien m'avait dit, mais vous, on m'a toujours tant dit que j'étais comme un ours. Eh bien, j'ai dit, heureusement que j'aime les ours. Mais est-ce que ça valait la peine qu'ils me le disent? Mais voyez, mon ministère, il a commencé ici, avec des remarques, des réflexions, des encouragements, etc. Des remarques. À la place de dire, mais quand même, c'est moi le pasteur. J'ai dit, Seigneur, apprends-moi à écouter. Et je pense que cette histoire, c'est vrai que servir le Seigneur Jésus et 12 apôtres, recevoir Jésus dans sa maison, c'est super chouette. Mais recevoir la pensée de Dieu dans son cœur, c'est quand même mieux. Alors, mes frères et sœurs, Dieu a vu comment vous avez écouté cette prédication, même si je vous l'ai dite il y a quelques mois, ou un an ou deux, je ne sais rien. Je sais que je vous ai apporté un peu cette pensée. Et s'il y a quelqu'un qui veut dire, c'est pas une question de raconter, mais est-ce qu'au ciel, parce que quand même, ça va arriver, c'est sûr. Et là, je ne me trompe pas, c'est pas une question, ouais, sur la terre, on racontera ce que tu as fait, on s'en fiche ça. Mais dans le ciel, quand même. Quand vous passerez devant le maître, quand même, parce que je ne sais pas si on le capte bien ça, quand on va passer devant notre maître, vous n'avez pas envie, quand même, de l'entendre vous dire tu l'as fait vraiment pour moi. Vous savez, je termine avec cette pensée, Marie, elle a fait un truc formidable, elle a pu répandre ce parfum sur les vêtements de Jésus, sur les pieds. Je suis sûr que les soldats, vous savez, qui ont tiré au sort la tunique, ils sont partis avec l'odeur. Le jour de la résurrection, il y avait des femmes de distinction, des femmes bien, Marie de Magdala, tout ça. La sœur de Jacques, la mère de Jacques, etc. Elles sont allées au cercueil, au tombeau. Pourquoi faire, hein? Pour embaumer le corps de Jésus. Elles ont dû préparer tout ça, la veille, des trucs super et tout. Est-ce qu'elles ont pu le faire, hein? Est-ce qu'elles ont pu le faire? Mais non, ça risquait pas, il était ressuscité. Et voyez, c'est ce qui va arriver. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on va regretter de ne pas l'avoir fait avant. Est-ce que vous avez suivi ma petite pensée? Je l'ai résumée là. Il y a des choses, on va les regretter après. Mais on ne peut pas, ça ne sert à rien. On ne pourra pas répandre. Pourquoi? Parce que ça sera trop tard. Mais avant l'enlèvement, on peut faire des choses. Mais pas des choses que le pasteur va vous dire de faire. Des choses que le Saint-Esprit vous montrera. Et là, je peux vous dire que quand vous allez passer devant Dieu, sur le tapis roulant, je ne sais pas comment ça va marcher. Moi, je n'ai pas eu d'infos. Mais ça va passer. Laissez-moi vous dire que vous serez certainement fiers dans votre robe de fin lin avec votre couronne avant de la jeter. Vous savez, on sera super bien sapé. Ça ne vaut pas la peine, mes frères et sœurs. Ça ne vaut pas la peine de dire, Seigneur, aide-moi. On n'est pas là pour se matraquer. Moi, je ne sais pas, ça ne sert à rien. Mais quand même, Seigneur, je veux revivre cette expérience. C'est pour ça, faites gaffe à la télé, à l'internet, tout ça. Je ne suis pas con de regarder des trucs sains et saïennes. Mais mes frères et sœurs, que ça ne vous empêche pas de vous asseoir. De vous asseoir à ses pieds. Avec le Saint-Livre. Et je peux vous dire que Dieu vous parlera. Je voudrais vraiment que mes frères et sœurs, vous lui répondiez dans le cœur. C'est pas la peine de prier à haute voix. C'est pas la peine. C'est pas la peine, croyez-moi. C'est pas la peine de prier à haute voix, de faire. C'est entre vous et Dieu, ça. Là, maintenant. Le silence, c'est un grand, grand bienfait. Il y a des églises où on ne supporte pas, mais il y a un problème. Le silence, c'est une bénédiction. C'est sûr qu'il y a des silences de mort, mais il y a quand même des silences, des recueillements pleins d'admiration. Mon frère, ma sœur, même vous qui venez pour les premières fois, répondez-lui avec quelques mots. Avec quelques mots. Dites-lui quelque chose. Comme Anne parlait dans son cœur, ou David, c'est pas, ils sont nombreux, ceux qui ont parlé dans leur cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vire, Seigneur? Je ne veux pas ressembler à Marie de Magdala et à Marie, mère de Jacques. Après ma mort, je ne pourrai pas répandre le parfum. Je veux le faire avant. On va se lever pour prendre la Sainte-Seine. C'est un moment important. C'est un moment où on peut demander de l'aide aussi. Éprouvez-vous vous-même. Oui, Marie, elle a choisi la bonne part. Celle qui ne sera jamais ôtée. Et dans le ciel, Marie recevra une récompense de plus par rapport à cette affaire. Alors je demande aux chrétiens baptisés, nés de nouveau, de se lever à leur place le cœur reconnaissant. La reconnaissance, c'est, on ne peut pas ne pas dire merci. Quand Dieu nous a parlé, on dit merci. Quand Dieu nous donne quelque chose, on dit merci. Si vous ne dites pas merci, ce n'est pas bien. Vous avez vu les enfants quand ils ne disent pas merci, comment on n'apprécie pas. Dites-lui merci au sein de votre cœur, Seigneur, merci. Je vais moi aussi imiter la foi de cette femme. Je saurai ce que tu veux que je fasse dans cette église. C'est Dieu qui vous a placé ici. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous y a conduit, je peux vous le dire. Il y a des œuvres, mes frères et sœurs. Il y a de nouvelles œuvres, individuelles et corporatives. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour chacune de ces histoires, chacun de ces versets. Combien tu as su répondre à Marthe, combien tu as su parler aux apôtres. Oh, Seigneur, merci pour ta sévérité, pour ta bonté. Merci pour ta patience. Merci d'avoir institué la scène. Merci d'avoir institué le pain et le vin. Oui, c'est la croix qui nous fait retrouver le ministère, le don, le talent. Amène-nous au calvaire, Seigneur, à tes pieds assis. Que ton nom soit béni. Amen.